Vous écoutez On lit pour vous.
La mission Old Brewery veut aider les personnes vulnérables à éviter l'itinérance. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 21 novembre 2025 dans Le Devoir. Pour répondre à l'effet tsunami de l'itinérance, la mission Old Brewery ne réclame rien de moins qu'un plan Marshall en la matière. En attendant celui-ci, l'organisme tente de réduire le flot de nouvelles personnes se retrouvant à la rue en travaillant avec les ménages à risque avant qu'ils n'atteignent le fameux point de bascule menant vers l'itinérance. Un logement à la fois. On veut court-circuiter le système, lance avec conviction le directeur de la prévention de l'itinérance à la mission Old Brewery, George Ohana. Notre approche, c'est de travailler avec la personne avant qu'elle ne se retrouve dans un contexte d'itinérance, avant l'étiquette. L'objectif, c'est de ne pas lui faire vivre le traumatisme de l'itinérance. Traumatisant. C'est justement le mot que David utilise pour décrire son passage dans un refuge pour personnes itinérantes il y a quelques mois. L'homme de 58 ans, qui a travaillé toute sa vie, n'avait jamais imaginé se retrouver à la rue. Mais, il y a quelques années, des ennuis de santé sont venus tout bousculer. Incapable de travailler, il avait de plus en plus de difficultés à boucler son budget. Puis, il a eu des problèmes avec le propriétaire de son logement qui voulait l'évincer pour faire des rénovations. J'avais tellement de stress. J'étais paniqué, paralysé, incapable de prendre une décision. J'avais l'impression d'être pris dans un manège dont j'étais incapable de redescendre, confie-t-il au Devoir. En janvier 2025, David a mis toutes ses possessions dans un entrepôt et est allé vivre chez un ami. Mais au bout de quelques semaines, c'était devenu intenable, raconte-t-il. C'est là qu'il a demandé de l'aide à différents organismes, dont la mission Old Brewery, qui s'est affairée à lui trouver un appartement. Mais dans l'intervalle, David s'est retrouvé au refuge pour itinérants de l'Hôtel Dieu. C'était horrible. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, dit-il. 3 mois plus tard, il a enfin obtenu un logement. Un beau grand 3,5 avec un balcon dont il est très fier. Mais on ne sort pas indemne d'une expérience d'itinérance, constate-t-il. Éviter de s'incruster dans l'itinérance. Dans le cas de David, l'intervention de l'organisme n'a pas réussi à éviter le traumatisme. Mais il a permis de réduire la période où celui-ci aurait pu s'incruster dans l'itinérance, un enjeu important selon George Ohana. On voit des gens qui n'ont pas le profil habituel de la personne sans-abri, qui entrent dans le monde de l'itinérance et qui, 3 ou 4 ans plus tard, se réveillent et disent « Je me suis engouffré dans ce milieu ». Avec son programme de prévention mis sur pied il y a 4 ans, la mission Old Brewery tente justement d'intervenir auprès de ces gens qui n'ont jamais connu l'itinérance avant qu'ils ne viennent cogner à la porte du refuge. Ceux qui sont encore en logement, mais qui sont sur le point de le perdre. Les gens ne voient pas cette personne comme une personne itinérante, mais dans 6 mois, c'est la chute libre. Pourquoi attendre que la personne soit rendue à genoux? Avec son équipe, Monsieur Ohana a développé un système s'inspirant des méthodes du courtage immobilier qu'il a adapté en courtage social. D'un côté, il a bâti une liste de gestionnaires d'immeubles subventionnés ou privés. De l'autre, des organismes le mettent en contact avec des ménages sur le point de perdre leur logement. Ils font ensuite le lien pour tenter de les replacer le plus rapidement possible. L'organisme a également développé un volet pour aider les gens à rester en logement et à renforcer ses mécanismes de triage au refuge. À ce jour, il a réussi à reloger ou à garder en logement plus de 500 ménages. Prévention. Mais comment, en pleine crise de l'itinérance, un organisme qui en a plein les bras avec ceux qui vivent déjà dans la rue, en vient-il à se lancer dans la prévention? Si ce n'est pas notre mission, qui le fera? Répond du tac au tac Georges Ohana. Pour lui, le rôle crucial de la prévention en itinérance n'est pas assez reconnu. Il estime pourtant que c'est ainsi qu'on réussira enfin à briser le modèle de la crise éternelle. D'autant plus que, selon lui, on a passé cette étape. Ce n'est plus une crise, c'est chronique. M. Ohana réclame ainsi un plan Marshall pour l'itinérance, soit un plan d'investissement d'ordre générationnel dans le logement sur plusieurs décennies, parce qu'il y a trop de variabilité dans les politiques municipales, provinciales et fédérales dans le domaine. Je pense qu'un plan Marshall pour l'itinérance, c'est la seule voie. C'était la mission Oldbury veut aider les personnes vulnérables à éviter l'itinérance, un texte de Jessica Nadeau, paru le 21 novembre 2025 dans Le Devoir.
Les pôles magnétiques voyagent. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse. Depuis 50 ans, le pôle Nord a quitté le Canada et se rapproche de plus en plus de la Russie. Et dans l'Atlantique Sud, un trou dans le champ magnétique terrestre s'agrandit d'année en année, perturbant les satellites et exposant les avions à plus de rayonnement. Des chercheurs tentent de comprendre ce qui cause ces excursions magnétiques. Le pôle Nord magnétique se déplace très vite vers la Sibérie. On cherche à comprendre pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses, explique Juliette Girard, océanographe de l'Université du Québec à Rimouski, UQAR, qui vient de publier dans la revue Geochemistry, Geophysics, Geosystems, une étude sur l'évolution du champ magnétique en Arctique depuis 6000 ans. En 50 ans, le pôle Nord magnétique s'est déplacé de près de 2000 km dans l'océan Arctique, du Nunavut vers les eaux internationales revendiquées par la Russie et le Danemark. Ce mouvement s'accélère. Le déplacement n'avait été que de 400 km entre 1831, l'année de la découverte du pôle Nord magnétique, et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pôle Nord géographique, lui, ne bouge pas. Plus au sud, au-dessus du Brésil et de l'océan, une autre zone anormale du champ magnétique terrestre augmente la fréquence des pannes sur les satellites qui survolent la région et pourraient accroître les risques de cancer pour ceux qui travaillent à bord des avions qui y circulent. Cette zone anormale dans l'Atlantique Sud se déplace aussi rapidement. L'ABC du géomagnétisme. Le champ magnétique terrestre décrit un arc de cercle qui s'éloigne de la Terre à partir du pôle Nord puis s'en rapproche au pôle sud. Le champ magnétique n'est pas uniforme sur toute la surface de la Terre, précise Mme Girard. Il est créé par la rotation d'une partie liquide du noyau de la Terre, du fer liquide qui tourne à une vitesse de quelques millimètres par seconde, indique Andy Biggin, géologue de l'Université de Liverpool, en Angleterre, qui étudie les variations du champ magnétique terrestre qui se sont produites depuis 400 millions d'années. Le mouvement du fer liquide agit comme la dynamo d'un vélo ou d'une centrale hydroélectrique. Il y a deux hypothèses pour expliquer les changements dans le temps du changement magnétique et le fait qu'il n'est pas uniforme. Avance John Tarduno de l'Université de Rochester, dans l'État de New York, qui a beaucoup publié sur le géomagnétisme. Soit les changements viennent d'une variation dans la vitesse du noyau liquide, soit ils sont causés par des interactions entre la partie liquide du noyau et des aspérités dans le manteau terrestre, la partie entre le noyau et la croûte terrestre. Je pense, comme beaucoup de collègues, que ces changements géographiques et temporels sont liés à des interactions entre le noyau liquide et le manteau terrestre, souligne M. Tarduno. Inversions et excursions. Ces anomalies au pôle Nord et dans l'Atlantique Sud ont poussé certains chercheurs à postuler que la Terre est sur le point de connaître une excursion magnétique, un changement rapide de position des pôles, qui pourrait aller jusqu'à l'équateur. La dernière excursion magnétique est survenue il y a 41 000 ans et a duré 800 ans. Il est possible qu'une autre excursion magnétique, moins importante, se soit produite il y a 17 000 ans. Lors d'une excursion magnétique, le champ magnétique est beaucoup plus faible et il y a davantage de vent solaire qui pénètre dans l'atmosphère. Ça aurait des effets négatifs sur la vie et sur les réseaux et appareils électroniques, confirme Guillaume Saint-Onge, titulaire de la chaire de recherche en géologie marine à l'UQAR. La demi-douzaine d'experts interviewés par la presse estime que la prochaine excursion magnétique ne surviendra pas avant plusieurs décennies, probablement plusieurs siècles. Julien Aubert, de l'Institut de physique du Globe de Paris, IPGP, pense même qu'elle n'aura pas lieu avant 1000 à 2000 ans. Un autre phénomène magnétique, encore plus important, est l'inversion des pôles. Le pôle Nord devient le pôle Sud, et vice-versa, indique M. Saint-Onge. La dernière inversion magnétique est survenue voilà 780 000 ans. Le processus d'inversion a duré quelques millénaires, au cours desquels la Terre était beaucoup moins bien protégée du vent solaire et de ses effets négatifs. Satellites et cancers. L'anomalie géomagnétique qui fait que le pôle Nord se promène, est une zone où le champ magnétique est plus fort. Dans l'Atlantique Sud et au-dessus du Brésil, ce qui se produit, c'est un niveau d'intensité plus faible de magnétisme dans ce secteur, comme une trouée dans le champ magnétique entourant la Terre. On parle d'une baisse accélérée du champ magnétique depuis les dernières décennies, dit Javier Pavón de l'Université Complutense de Madrid, UCM, spécialiste de l'anomalie de l'Atlantique Sud. On est maintenant 30 % plus faible que le reste de la planète. Ce champ magnétique plus faible a deux conséquences négatives, selon Julien Aubert. Les satellites et les avions qui passent au-dessus de la région sont davantage exposés au vent solaire, dit-il. Des satellites plus vieux ont connu une fin de vie précoce, et il faut protéger davantage les satellites qui survolent cette région. M. Aubert cite l'un des trois satellites européens, Swarm, lancé en 2013, dont des instruments ont flanché presque immédiatement à cause de l'anomalie géomagnétique sud-atlantique. Les pilotes d'avions et agents de bord sont, quant à eux, soumis à des radiations plus grandes que sur d'autres liaisons, ajoute-t-il. Javier Pavón travaille à prédire la trajectoire et l'évolution de l'anomalie de l'Atlantique Sud. On sait qu'elle est passée de l'Afrique à l'Amérique du Sud en 4 siècles. Il y a un débat pour déterminer si cette anomalie est la même qu'une anomalie géomagnétique qui a existé dans l'est de l'océan Indien au 12e siècle, qui semble ensuite s'être déplacée vers l'ouest. Le paléogéomagnétisme. La prédiction sur l'avenir des anomalies géomagnétiques du pôle Nord et de l'Atlantique Sud est basée sur le passé. Il y a des mesures fiables du magnétisme terrestre depuis les années 1840. Pour remonter plus loin, il faut interroger les sites archéologiques et les traces biologiques paléontologiques. Juliette Girard, par exemple, a pu reconstruire l'emplacement du pôle Nord dans les 6000 dernières années à partir de sédiments de l'est du Groenland. Elle travaille maintenant sur des sédiments lacustres du Labrador qui permettront d'avoir une meilleure résolution temporelle. Actuellement, on peut avoir une précision de quelques dizaines d'années pour l'emplacement du pôle Nord, dit-elle. Avec ces sédiments lacustres, on pourra avoir une précision de l'ordre d'une année. En savoir plus, source USGS. 1250 km. Rayon du noyau solide au centre de la Terre. 2200 km. Rayon du noyau liquide de la Terre. 2900 km. Épaisseur du manteau terrestre. Moins de 100 km. Épaisseur de la croûte terrestre. C'était Quand les pôles magnétiques voyagent. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse.
L'avenir accessible de Clare, un texte de Shannon Nickerson, publié le 27 novembre 2025 dans Le courrier de la Nouvelle-Écosse. La municipalité de Clare a terminé, le 14 novembre dernier, la 4e session de consultation communautaire dans le cadre de son initiative d'engagement communautaire visant à mettre à jour son plan d'accessibilité. Il s'agit de la 4e session d'engagement public organisée dans le cadre d'une série d'événements baptisés « Rendez-vous de l'accessibilité » qui a pour objectif d'identifier et d'éliminer les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans la communauté. La journée porte ouverte était structurée de manière à faciliter des discussions ciblées avec 4 kiosques thématiques consacrés aux domaines clés du plan d'accessibilité, l'environnement bâti, les transports, l'information et la communication, ainsi que les produits et services. Un 5e domaine, l'emploi, est traité dans le cadre de processus municipaux internes. La coordination du processus est assurée par Marc-Alexandre Bouchard, nouveau coordonnateur de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité, et DIA, de la municipalité. La mise à jour est gérée selon un processus en 10 étapes. Nous en sommes actuellement à la 4e étape du processus qui consiste à mobiliser la communauté, a expliqué M. Bouchard. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'objectif provincial de la Nouvelle-Écosse de devenir une province sans obstacles d'ici 2030. Elle sert de mise à jour au plan d'accessibilité 2023-2026, décrit dans son introduction par la présidente de l'époque, Nadine Comeau, comme un document vivant destiné à évoluer en fonction des besoins de la communauté. La mise à jour est guidée par le Comité consultatif sur l'accessibilité, CCA, composé de membres de la communauté, de conseillers municipaux et d'employés. Le comité, créé en novembre 2021, est actuellement présidé par la conseillère Réanne Evans, qui supervise la mise à jour du plan. Monsieur Bouchard explique que, lors de ces séances, le défi le plus important soulevé par les résidents concerne le transport. Actuellement, le service principal dans la région est Transport de Clare. Ce dernier est un organisme de bienfaisance enregistré, financé en partie par Services Nova Scotia et Relations municipales dans le cadre du Programme d'aide au transport communautaire, CTAP. C'était « L'avenir accessible de Clare », un texte de Shannon Nickerson, publié le 27 novembre 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Les environnements sans parfum ne sont pas frivoles. Un texte de Rosa Iannocco, paru le 3 novembre 2025 dans la presse. L'Association pour la santé environnementale du Canada réplique à la chronique « Avez-vous pensé à votre charge odorante aujourd'hui? » de Patrick Lagacé, publié le 7 septembre 2025. Pour Rosa Iannocco, les environnements sans odeur sont essentiels car ils protègent les personnes en situation de handicap. Rosa Iannocco est administratrice à l'Association pour la santé environnementale du Canada. Lorsque le chroniqueur Patrick Lagacé a réagi à l'affichage demandant d'éviter les produits parfumés dans les bureaux de Service Canada, il a présenté cette politique comme excessive et absurde. Il a soutenu que, pour accommoder seulement 3 % de la population, le gouvernement fédéral préférerait que vous sentiez la sueur plutôt que le parfum artificiel du déodorant. Il a qualifié cette mesure d'hypersensibilité culturelle et a suggéré que 97 % des gens renoncent aux produits de base, en bref, être dégueu. Il a même proposé que les personnes hypersensibles portent des masques N95 ou que les Canadiens soient forcés de prendre une douche avant d'entrer dans un bureau des passeports. Ces propos banalisent une déficience reconnue, la sensibilité chimique multiple, SCM, et alimente la stigmatisation qui met en danger la santé et la sécurité des personnes concernées. Je le sais d'expérience. Je vis avec la SCM depuis 2007, après avoir été exposé à plusieurs reprises à des produits chimiques au travail. Comme on m'a refusé des mesures d'accommodement, ma santé s'est progressivement détériorée. Je ne pouvais plus travailler, faire mes courses, ni voir ma famille, et j'ai passé 2 années isolé. Lorsque je suis exposé à des parfums ou produits chimiques, je développe rapidement des douleurs à la tête et aux yeux. Je perds la voix, j'ai du mal à parler, je souffre de confusion, de troubles de l'équilibre et de douleurs à l'estomac. Je deviens incapable de fonctionner et dois quitter les lieux immédiatement. La SCM n'est pas une préférence personnelle. C'est un handicap reconnu et protégé comme tout autre handicap en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 2007, la Loi canadienne sur l'accessibilité, 2019, et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Commission canadienne des droits de la personne le confirme sur son site Web. Le Comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, dans ses observations finales de 2025, a rappelé que les personnes atteintes de SCM ont droit à une protection égale, à des mesures d'accommodement et à des environnements accessibles. En juin 2025, l'Association médicale américaine a adopté une politique reconnaissant la SCM comme pouvant limiter les activités majeures de la vie et appuyant les politiques sans parfum et l'étiquetage des ingrédients. Des agressions chimiques quotidiennes. J'essaie de mener une vie normale, mais je suis constamment confronté à des expositions et à des obstacles. J'évite les lieux publics comme les cinémas, les conférences et les fêtes. Cela touche aussi mon conjoint. Nos sorties ou vacances sont souvent gâchées. Même mes rendez-vous à l'hôpital sont difficiles, car je dois affronter le personnel et le savon parfumé dans les toilettes. À la maison, je réagis aux produits de lessive et à la fumée de cigarettes de mes voisins. Mon corps est épuisé par ces agressions chimiques quotidiennes. La SCM se développe par sensibilisation. Des expositions répétées rendent le corps de plus en plus réactif. Des produits courants, parfums, assainisseurs d'air, crèmes parfumées, produits de nettoyage peuvent déclencher des symptômes invalidants dans tous les systèmes du corps. Plus d'un million de Canadiens ont reçu un diagnostic de SCM et ce nombre augmente. Patrice Lagacé a parlé de seulement 3 % mais cela exclut des millions d'autres personnes asthmatiques, atteintes d'allergies graves, de dermatites, de migraines et d'autres conditions qui dépendent elles aussi d'un air sain. Je suis reconnaissante pour les rares lieux où des produits non parfumés sont utilisés, où je peux respirer et vivre sans être malade. Je suis membre de l'Association pour la santé environnementale du Québec et du Canada depuis de nombreuses années et je parle au nom de celles et ceux qui souffrent encore davantage et sont forcés de vivre isolés. J'espère que de plus en plus de personnes et d'entreprises reconnaîtront les effets nocifs des produits chimiques du quotidien. Les mesures d'accommodement, comme les politiques sans parfum, ne visent pas à restreindre les choix. Elles garantissent que tout le monde puisse accéder aux lieux publics en toute sécurité et avec dignité. Sans parfum ne signifie pas que les gens sentiront mauvais. Des milliers de Canadiens utilisent chaque jour des produits personnels non parfumés et ils ne sentent rien. Se moquer de ces mesures revient à se moquer d'un fauteuil roulant, d'une rampe, d'une canne ou d'un chien guide. Cela envoie le message que notre sécurité importe moins et incite d'autres à ignorer les règles d'accessibilité, créant un danger réel. Grâce à l'Association pour la santé environnementale du Québec et à la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, un certain soutien existe pour les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, mais les services demeurent rares, surtout au Québec. Ridiculiser la sensibilité chimique multiple revient à mépriser non seulement une mesure d'accessibilité, mais aussi les personnes qui en dépendent pour respirer, travailler et vivre. C'était « Les environnements sans parfum ne sont pas frivoles ». Un texte de Rosa Yanoko, paru le 3 novembre 2025 dans la presse.